Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Une salutation particulière à Monique qui, dimanche, m'a donné une parole d'encouragement. Oui, ça fait du bien d'être encouragé. Merci Monique. Ce jour, nous parlons de la foi. Sous-entendu, de la foi en Dieu. Il y a bien des années maintenant, une personne m'a dit « Je suis croyante ». Je lui ai demandé en toute simplicité « Et que croyez-vous ?» Je m'attendais à l'expression d'un credo relatif à sa foi. Or, rien dans ce sens. Voici sa réponse, je cite « Je crois tout ». Cherchait-elle à faire bonne impression ? Voulait-elle se démarquer de ceux qui professent ne pas croire, qui se disent athées? Ce qu'elle considérait comme de la foi était simplement de la crédulité. La foi a un fondement solide. Elle repose sur ce que Dieu dit, avec pour appui cette déclaration de l'Écriture. Je lis, Nombre chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? » Et le psalmiste, en chantant la louange de Dieu, le confirme par ces mots, je cite, « Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Certains nous disent, je cite, « Vous avez de la chance d'avoir la foi. » Implicitement, ils veulent déclarer qu'ils n'ont pas ce bonheur, qu'ils nous envient. Bien-aimés, ne pense pas une telle chose. Dieu a départi à chacun de nous la capacité de croire. Que penseriez-vous d'un enfant qui, pour refuser d'aller à l'école, dirait « Non, je ne veux pas aller, parce que je ne sais pas lire ». Précisément, c'est pour cela qu'il va à l'école, pour apprendre. Il a en lui la capacité d'apprendre à lire. Le chien ou le chat de l'instituteur n'a pas cette capacité, et il pourrait passer des heures dans la classe. Cela ne lui servirait de rien. Bien-aimé, pour t'aider à croire, le Seigneur nous a donné sa parole, les Écritures, et aussi des prédicateurs. L'apôtre Paul a écrit aux Romains ceci. Je lis chapitre 10, versets 13 et 14. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche ?» Ce jour, il y a quelqu'un qui prêche, et tu entends parler du Seigneur. Cela va produire la foi dans ton cœur et te pousser à invoquer le nom du Seigneur, c'est-à-dire à le prier, à faire appel à lui, tout simplement. C'est la voie du salut. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux va servir de référence à notre réflexion concernant la foi. Le verset premier nous dit ce qu'est la foi, nous en donne la définition, je cite, « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une ferme assurance et une action en conséquence, simplement parce que Dieu a dit « Alléluia ». Le verset 11 nous donne une clé pour souligner ce qu'est la démonstration de la foi. Je lis, « Par la foi, Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » On cite souvent Abraham pour évoquer la foi. Et c'est normal. n'est-il pas surnommé le Père de tous les croyants? Mais pour procréer, il faut être deux, un homme et une femme. C'est là le plan du divin Créateur. Un couple, soit, un homme et une femme, qui ne font qu'une seule chair. Oui, Sarah a bien eu sa part de foi dans la naissance d'Isaac. Sarah a été rendue capable d'enfanter. Le mot miracle est inévitablement mis en tandem avec la foi. Car voici une précision relative au contexte précédant la naissance de celui qui est surnommé le fils de la promesse, Isaac. Je cite, « Abraham et Sarah étaient vieux. » Et comme si cela ne suffisait pas, il est encore précisé « d'un âge avancé ». Nous dirions aujourd'hui « senior quatrième catégorie ». Et pour que chacun comprenne bien l'œuvre de la foi, il est ajouté « et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants ». Une autre précision est donnée, Sarah était stérile. C'est pour cela qu'il y a eu l'épisode malheureux où elle a incité son époux à aller vers sa servante. Le recours au système des mères porteuses n'est pas nouveau. Alors que tout semblait scellé, Dieu, qui avait déjà fait la promesse, suscitant le rire d'Abraham, Dieu renouvelle cette promesse, suscitant cette fois le rire de Sarah, d'où le nom donné à l'enfant, Isaac, qui signifie rire. D'abord un rire d'incrédulité, mais lorsque la foi a triomphé, il s'est changé en rire de joie, de bonheur. La foi a rendu Sarah capable d'enfanter. Alléluia! Je lis maintenant le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi rend possible ce qui est impossible. La foi rend capable d'être agréable à Dieu. Les religions mettent en avant toutes sortes de règles à observer pour plaire à Dieu. Jésus illustre cela par la parabole du pharisien et du publicain priant tous deux dans le temple. Le pharisien est rempli de suffisance et s'appuie sur sa pratique religieuse. Voici en quels termes il raisonne. Je cite « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Donner la dîme, jeûner, ne pas commettre adultère, ne pas voler, c'est bien. Toutefois, redisons-le, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce, par le moyen de la foi. » Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. La foi nous rend capables d'être agréables à Dieu parce qu'elle nous amène à nous reposer sur le don de Dieu. Jésus a dénoncé à maintes reprises le discours moralisateur et intransigeant des chefs religieux. Il leur a reproché leur attitude de façade pour paraître et se montrer comme supérieurs aux autres. Matthieu au chapitre 23 rapporte un discours sans concession de Jésus à l'encontre des pharisiens dont l'appellation est devenue synonyme d'hypocrite. Je cite les versets 27 et 28. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous, de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. » Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. cette forme de pratique ostentatoire perdure. Mais Dieu regarde au cœur, et seule la foi rend capable d'être agréable à Dieu. Nous faisons maintenant une pause musicale.
Assis devant ta télé, fenêtre du monde, tu y vois la haine qui gronde. Tu voudrais pouvoir tout changer. Décontracté, assis terrasse de café, regarde sur les gens, tu y vois de pauvres mendiants. Tu voudrais pouvoir les aider, les aimer. Tu ne fais pas le bien que tu veux, tu fais le mal que tu ne veux pas. Un captif emprisonné par le péché, tu es incapable d'aimer comme Dieu le voudrait. Et qui pourra te délivrer?
Nous poursuivons notre réflexion concernant la foi en nous laissant enseigner par le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Au verset 4, je lis « C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offrandes. Par la foi, Abel a été rendu capable d'offrir un sacrifice que Dieu pouvait agréer. » Deux mots d'explication, car notre regard bien humain nous aurait porté quasiment à l'inverse. Nous aurions dénoncé Abel à la SPA et nous aurions complimenté Caïn pour son dur labeur. Or, si de nos jours il est difficile aux écoliers d'apprendre l'histoire de France, en ce temps-là, il était aisé de connaître l'histoire du monde, le fait marquant étant la désobéissance d'Adam et d'Ève. Ils avaient cherché à couvrir leur nudité avec des feuilles de figuier, mais cela étant bien futile, Dieu leur avait fait des habits de peau. Première notion d'un sacrifice d'animal pour couvrir le péché de l'homme. Par ailleurs, comme conséquence de la désobéissance, la terre avait été maudite. L'offrande de Caïn était tirée de la malédiction, tandis qu'Abel, par la foi, était entré dans la voie que Dieu montrait pour nous amener à la révélation de son amour par le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. Alors que l'Écriture affirme qu'il n'y a point d'homme qui ne pêche, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, Noé, par la foi, a été rendu capable d'être déclaré juste par Dieu. Je lis verset 7. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il a hérité de la justice qui s'obtient par la foi. Un héritage nous échoit sur d'autres bases que le mérite. Des incompétents ont hérité de fortunes durement acquises par le dur labeur de leurs ascendants. À cause de leur filiation, ils ont reçu ce qui, comme on dit, leur revenait de droit. Paul écrit aux Romains, je cite, chapitre 5, verset 1er, Bible français courant, « Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. » la foi a rendu Abraham capable d'obéir. Je lis versets 8 à 10, Bible français courant. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob qui reçurent la même promesse de Dieu. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La foi rend capable de faire un tel saut dans l'inconnu. Abraham a simplement obéi, faisant confiance à Dieu pour le conduire. Il s'est mis en route sans connaître la destination où Dieu voulait l'amener. En fait, il avait en perspective une destination céleste. De sorte qu'ils ont considéré qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, dans l'attente de la patrie céleste. Cette patrie céleste est bien supérieure à toutes celles que ces patriarches avaient quittées, aussi confortables qu'elles aient pu être. Abraham a donné à plusieurs reprises des preuves de sa foi. Exemple, quand il est parti sans savoir où il allait, et aussi lors de la conception d'Isaac. Je lis Romains chapitre 4, versets 19 à 21. « Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, on dirait « Sarah était ménopausée ». Je ferme la parenthèse et poursuis la lecture. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu. Mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Après ces choses, Dieu va encore le mettre à l'épreuve. Dans Genèse chapitre 22, il nous est rapporté ceci. Dieu appelle Abraham qui répond « présent ». Alors Dieu dit à Abraham « prends ton fils ». En fait, il en a deux. « Ton unique, celui que tu aimes ». Et comme si cela ne suffisait pas, Isaac est nommé. Avec ce qui suit, on comprend qu'Abraham aurait pu chercher à ne pas comprendre. Car Dieu dit à Abraham, je cite, « Offre-le en holocauste ». Alors de bon matin, Abraham s'est mis en route. Aucune mention quelconque d'une éventuelle conversation avec Sarah. Probablement, elle aurait pu lui dire, « Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est le diable ». Isaac est l'enfant de la promesse. En lui repose l'espérance d'une postérité nombreuse. Voici comment cet épisode est relaté au chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Je lis versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. La foi a rendu Abraham capable de penser sainement, de penser que Dieu, pour accomplir sa promesse, pouvait même ressusciter Isaac d'entre les morts. Aussi la substitution qui a eu lieu est qualifiée de, je cite, « une sorte de résurrection ». Cela a été abordé en détail dans un précédent message intitulé « Trois éclats de la croix ». Vous pouvez maintenant l'écouter en différé sur le site web de la radio et le texte peut être librement copié. Nous faisons une nouvelle pause musicale. La foi a rendu Moïse capable de renoncer au titre de fils de la fille du Pharaon. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Il a estimé qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Bien-aimé, dans notre pensée, nous associons souvent foi avec exploit. Exemple au verset 33 et 34, je cite « La gueule des lions affamés a été fermée. » On pense au prophète Daniel. Et ces lions n'étaient pas des animaux de zoo inoffensifs. Ils ont dévoré ceux qui ont été jetés dans la fosse après la sortie de Daniel. La puissance du feu a été sans effet. On pense aux trois amis de Daniel. Là encore, un détail montre qu'il ne s'agissait pas d'artifices dont on use au cinéma. Ceux qui ont jeté les trois hommes dans la fournaise ont été tués par la puissance des flammes. Au verset 35, il est souligné que cette même foi, qui a permis à des femmes de voir leur mort ressuscitée, cette même foi a rendu d'autres capables de refuser toute délivrance, ayant en vue comme Moïse la résurrection des justes. Ainsi, certains ont été lapidés. On pense à Étienne, le premier martyr. D'autres ont péri par l'épée. On pense à Jacques, le frère de Jean, tous deux surnommés Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. On sait pourquoi. Dans une précédente émission ayant pour titre « Persécuté mais pas abattu », j'ai mis en évidence cette facette de la foi qui surmonte les oppositions et persécutions jusqu'à ne pas redouter la mort qui est vécue comme un passage vers la gloire. Vous pouvez aussi entendre ce message en différé et en trouver le texte sur le site web de FM Évangile 66. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux se termine par ces mots, je lis, versets 38 à 40, Bible français courant. Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils erraient dans les déserts et les montagnes. Ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous, et il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Ce qui m'émerveille, bien-aimé, c'est le plan de Dieu nous concernant, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, car nous nous sentons petits, comparé à ces gens-là dont le monde n'était pas digne. Ne sont-ils pas, à nos yeux, des géants de la foi? Cependant, ce sont des individus de la même nature que nous. Ils nous ressemblent. Ou plutôt, nous devrions dire, nous leur ressemblons. Car Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. Dieu n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Il a prévu mieux encore pour nous. Par la foi, ces gens-là ont fermé la gueule des lions ou ont été rendus capables de procréer quand humainement c'était impossible. La foi est associée à l'espérance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en donne un avant-goût. Je lis chapitre 7, versets 18 à 22. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Pour nous, meilleure espérance, meilleure alliance. Ce plus a un nom, Jésus. Au verset 25, il est écrit, je cite, « Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Oui, Christ est mort pour nos péchés. Il en a fait l'expiation. Mais au matin de Pâques, il est ressuscité. Il sauve parfaitement ceux qui croient en son nom. Bien-aimé, es-tu de ce nombre? Jésus est-il ton sauveur? Et si ton cœur est ballotté par le doute, tu peux lui dire comme cet homme de l'Évangile, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Dans son plan, Dieu, pardonnez-moi l'expression, Dieu a fait fort. Il n'a pas voulu qu'il parvienne sans nous à la perfection, car il nous introduit ensemble dans sa gloire, comme le précise Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Je lis chapitre 4, versets 15 à 17. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le corps corruptible que nous occupons provisoirement, étant étranger et voyageur sur la terre, doit retourner à la poussière de laquelle il a été tiré. Et le corps des vivants, lors de l'avènement du Seigneur, sera changé. Je lis 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Entendant parler du retour du Seigneur, une chrétienne s'est criée, je cite, « Je suis toute abasourdie ». Oui, c'est merveilleux. On comprend facilement que, comme le dit Paul aux Romains, je cite, « les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Marcher par la foi, c'est avancer avec la vision de l'invisible. Bien-aimé, recommande ton sort au Seigneur. Mets en lui ta confiance. Il est près de toi. Tout est possible à celui qui croit, car tout est possible à Dieu. Amen. »